Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média au menu. Médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. On parlera par exemple de gastronomie avec Laurent Mariotte, faut-il le rappeler. L'UNESCO a classé la gastronomie française comme faisant partie du patrimoine culturel mondial de l'humanité. Tout aussi savoureux, Bertrand Chamerois pour son écran de veille et Eva Rock pour son zapping du lendemain. Ça sera aux alentours de 10h. Nous sommes ensemble jusqu'à 2h. Nous sommes ensemble pour 2h en direct. Et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre Infomédia, là encore, je donne une date. Nous sommes le 11 septembre, à bientôt 50 jours de l'élection présidentielle. Et c'est également aujourd'hui que La Croix publie le deuxième épisode de son podcast. C'est ça l'Amérique. Leur correspondant Alexis Buisson sera en direct avec nous depuis Portland, aux États-Unis. Buisson. En anglais, ça se dit Bush. Koh-Lanta, c'est ce soir sur TF1. L'émission, malheureusement, a appris hier, on vous l'annonçait, la mort d'un candidat de cette saison, Bertrand Kamel. Il sera à l'antenne ce soir, comme il l'avait souhaité. Je précise qu'il n'est pas décédé dans l'émission. Mais hier, c'est ce que nous dira Denis Brognard, présentateur, qui sera notre invité. On parlera évidemment de l'émission en soi. Et puis la chanteuse Pomme avec nous pour une nouvelle version de son album Les Failles Cachées et une tournée. Alors si vous ne la connaissez pas, faites-moi confiance, c'est une merveille. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino, peut-être sa plus grande fan. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour à tous, bonjour Philippe.
C'est votre journal des médias, c'est quoi le sommaire du jour ?
Les propos polémiques de Nicolas Sarkozy, l'appel au boycott de Netflix, le MIP qui ne se tiendra pas à Cannes et le retour d'un personnage mythique.
Mais on commence par les audiences, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
TF1 a pris la première position avec la suite de sa série française Grand Hôtel. En semaine 2, les deux épisodes de la soirée ont réuni en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs, soit 18,1% du public. C'est quand même 600 000 personnes de moins que la semaine dernière. France 3 est deuxième avec la rediffusion du film Les Souvenirs avec Annie Cordy. Cette programmation spéciale, en hommage à la comédienne et chanteuse, a permis à la chaîne de réunir 3,1 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 14,2% selon Médiamétrie. C'est M6 qui est troisième avec sa série américaine 911. Les deux épisodes inédits affichent une moyenne de 2,2 millions de téléspectateurs pour 10,2% de part d'audience globalement stable.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias par une séquence qui fait sacrément parler depuis quelques heures.
Hier soir, l'émission Quotidien sur TMC recevait Nicolas Sarkozy. L'ancien président était venu assurer la promotion de son nouveau livre, Le Temps des Tempêtes. Et il a créé sa propre tempête au cours de l'interview quand il s'est lancé dans une association d'idées qui a choqué.
Et cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui n'écoutent personne. Alors, je ne sais plus si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire les. On dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Ça, mais c'est, elle progresse la société. Oui, le livre.
Vous parlez Agatha Christie,
oui,
d'accord.
Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne.
Pour résumer, Nicolas Sarkozy prononce le mot singe, mais inconsciemment, il fait référence aux 10 petits nègres d'Agatha Christie.
Voilà, c'est exactement ça. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, la maison d'édition française d'Agatha Christie a décidé de changer le titre des 10 petits nègres, qui s'appellera désormais « Ils étaient 10 ». Un changement qui intervient alors que le titre original du livre avait été changé dans les années 80. Alors évidemment, cette dénonciation par Nicolas Sarkozy, pour le moins maladroite d'une société où, je cite, « on ne peut plus rien dire », n'est pas passée inaperçue, pas plus que l'absence de réponse de la part de l'équipe de Quotidien sur le plateau.
Ouais, son émission média, ça non plus, c'est pas passé inaperçu.
Voilà. Sur les réseaux sociaux, les voix se sont rapidement élevées du côté des opposants politiques à Nicolas Sarkozy, forcément, mais pas seulement. L'autrice et militante Rokhaya Diallo a fait mine de s'interroger innocemment sur Twitter. Je cite « Mais quelle partie de la population notre ancien président croit-il offensé quand il prononce le mot singe ?» L'humoriste Sophia Aram, elle, a été plus cash. « Alors Nicolas, comment te dire, le mot que tu cherches, ce n'est pas singe, mais nègre. En revanche, que tu fasses le lien, ça pèse une tonne, bordel de merde. » Je cite.
Et ce n'est vraisemblablement que le début de cette polémique. Le MIPCOM, c'est tout à fait autre chose, n'aura pas lieu.
Le grand marché des programmes organisé à Cannes tous les ans ne se tiendra pas cette année, du moins pas en physique. À l'origine, les professionnels des médias venus du monde entier devaient se retrouver au Palais des Festivals pendant 3 jours, du 12 au 14 octobre prochain, pour découvrir ou faire découvrir les nouveautés. C'est au MIPCOM que les producteurs vendent leurs nouveaux programmes et que les chaînes font leur marché.
Et j'imagine que c'est annulé à cause du Covid.
Exactement. Vu la situation sanitaire, Reed Midem, qui est l'organisateur du salon, a préféré annuler pour se concentrer sur une édition virtuelle du rassemblement qui est baptisée MIPCOM Online Plus. Laurine Garraud, en charge du MIPCOM chez Readmidem, a expliqué cette décision dans un communiqué. Je cite « Nous avons toujours été clairs, nous n'organiserions la version physique de l'événement que si les conditions le permettaient. Face à l'incertitude persistante autour du Covid-19 et aux restrictions de déplacement accrues à l'international, nous pensons que MIPCOM Online Plus est la façon la plus efficace d'aller de l'avant et de rassembler la communauté internationale du monde de la télé. » Voilà donc ce qu'a expliqué Laurine Garraud de Readmidem.
Et habituellement, c'est au même moment, qu'advient-il de Cannes Série ?
Voilà, effectivement, la troisième édition du festival devait être organisée du 9 au 14 octobre. Les projections, elles seront maintenues. En fait, tout le festival est maintenu. Il y aura donc les projections, les rencontres avec les scénaristes, les producteurs. Il y aura bien sûr la compétition. Le palmarès sera dévoilé le 14 octobre lors d'une soirée où les spectateurs découvriront aussi en avant-première, les petits vénards, les deux premiers épisodes de la saison 4 de 10%.
Depuis hier, une pétition circule pour appeler les utilisateurs de Netflix à annuler leur abonnement. Pétition qui a déjà recueilli 600 000 signatures.
En cause, la présence sur le service de streaming du film français Mignonne. Le film de Maïmouna Doucouré avait déjà fait l'objet d'une polémique lors de la publication de l'affiche créée par Netflix pour en assurer la promotion à l'international. C'était au mois d'août. Les voix s'étaient élevées pour dénoncer cette sexualisation des jeunes héroïnes du film qui entrent à peine au collège.
Et Netflix s'était excusé.
Oui, parce que l'affiche ne correspondait pas du tout aux propos du film. Netflix avait fait part de ses regrets pour ce faux pas marketing et on pensait l'affaire enterrée jusqu'à la création de cette pétition dont l'auteur dénonce un film qui, je cite, « exploite les enfants et crée une atmosphère gênante ». Jeudi, le hashtag « cancel Netflix », le mot dièse, était en tête des sujets les plus populaires sur Twitter aux États-Unis. De son côté, une association de parents conservatrices américaines a critiqué le géant du streaming pour avoir changé le poster promotionnel, en retirant l'affiche. Netflix a peut-être fait plus de mal que de bien en faisant croire que Mignonne n'était qu'un film innocent sur l'adolescence. Voilà ce qu'a dénoncé le Parents Television Council. Pour l'heure, Netflix n'a pas répondu à cette nouvelle levée de bouclier.
Ce ne sera pas sur Netflix, mais au cinéma, le retour de Neve Campbell.
Bonsoir, Sydney. Tu aimes les films d'horreur, Sydney ?
Cette nuit, on a enfin eu la confirmation que tous les fans de films d'horreur attendaient. Neve Campbell sera bel et bien de retour dans le cinquième volet de la saga Scream. 9 ans après Scream 4, un cinquième film a été mis sur les rails au début de l'année avec deux réalisateurs en vogue qui ont pour objectif de redonner un coup de jeune à la franchise, de quoi lui permettre de retrouver le côté très subversif du premier film qui avait, on le rappelle, secoué le genre en se moquant ouvertement de toutes les ficelles des films d'horreur.
Et Neve Campbell ne sera pas la seule à rempiler.
Non, en effet, ça on le savait déjà, on l'a su cet été, Courteney Cox et David Arquette ont déjà officialisé leur retour dans les rôles de Gale Weathers et Dewey Riley. Du côté des petits nouveaux, on a appris hier l'arrivée au générique de Dylan Minnette. Dylan Minnette, c'est l'un des acteurs principaux de la série 13 Reasons Why, histoire d'attirer les jeunes qui, eux, n'ont pas vu les quatre premiers films.
Merci beaucoup Charles Decan. À lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Culture Média qui continue évidemment avec notre info média du jour qui arrive, c'est le podcast spécial élection américaine Journal de la Croix, podcast qui dresse un portrait des États-Unis sous la présidence de Trump. On sera avec Alexis Buisson, c'est le correspondant du journal là-bas, en direct de Portland. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Aujourd'hui, 11 septembre, c'est une date emblématique dans l'histoire des États-Unis et du monde. Et lundi, nous serons à 50 jours de la présidentielle américaine. C'est un peu la date choisie pour sortir le deuxième épisode d'un podcast consacré à l'Amérique de Donald Trump. Ça s'appelle C'est ça l'Amérique. C'est le journal La Croix qui le publie et il est signé Alexis Buisson, le correspondant du quotidien aux États-Unis. L'objectif, dresser un portrait de l'Amérique de 2020. Bonjour Alexis Buisson.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On vous entend parfaitement bien. Où vous trouvez-vous et quelle heure est-il chez vous ?
Alors je suis à Portland dans l'Oregon, c'est un état dans le nord-ouest des États-Unis et il est minuit 20. Donc après vous avoir parlé, je vais aller dormir un peu.
Voilà, 9 heures de décalage. Vous vous trouvez à Portland parce qu'il y a là-bas les incendies spectaculaires. À quoi ressemble la ville ?
Alors c'est assez fantomatique à vrai dire. Moi je suis spécifiquement dans le centre-ville de Portland. Portland c'est une ville qui est d'ordinaire très animée et son centre-ville est très animé. Là il se trouve que je suis dans le centre-ville parce que c'est là où se déroulent aussi de nombreuses manifestations Black Lives Matter en temps normal. Ces manifestations antiracistes qui ont balayé le pays depuis maintenant 3 mois. Et là en fait c'est un centre-ville qui est désert. Il y a beaucoup de commerces qui sont fermés pour cause de coronavirus, bien sûr, mais aussi parce que les commerçants redoutent des violences ou des dommages causés aux bâtiments. Donc il y en a beaucoup qui sont derrière des panneaux de bois. Il y a très peu de gens dans la rue. Et en plus, et voilà, maintenant, comme vous le disiez, Philippe, il y a ces incendies qui se sont déclarés un peu partout autour de la ville. Et ces incendies créent un voile de fumée qui s'est posé sur ce décor complètement désert, quoi. Donc
d'un mot, là, c'est la nuit. Ouais. Mais est-ce que c'est orange comme à Los Angeles? Les images qu'on a vues ici en France sont spectaculaires.
C'est pas aussi orange, c'est plutôt jaune. Mais effectivement, c'est vrai que les images de la Californie sont spectaculaires. Les incendies dans l'Oregon sont pas aussi importants, même s'ils sont d'une ampleur historique et qu'ils ont nécessité des évacuations également d'une ampleur historique, puisqu'on estime que à peu près 10% de la population de l'Oregon a été évacuée ou déplacée. Mais effectivement, on est plutôt dans des tons de jaune, ouais, si on doit qualifier la couleur.
Alors j'en viens à ce podcast, Alexis Buisson, vous êtes correspondant de La Croix aux États-Unis depuis combien de temps ?
Ça fait depuis 2014 que je suis le correspondant de La Croix, mais ça fait depuis 15 ans maintenant que je suis aux États-Unis. En fait, je suis arrivé pendant mes études ici.
Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Je vais poser une question un peu plus précise. À quoi ressemble l'Amérique de Trump, ou plutôt, que sont devenus les États-Unis, de votre point de vue, de ce que vous avez vu journalistiquement parlant, après 4 ans de présidence Trump ?
Il y a eu beaucoup de changements, bien sûr. Et moi, si vous voulez, le plus grand changement, et un changement qui m'attriste d'une certaine manière, comme en tant que quelqu'un qui aime les États-Unis, c'est de voir la division, les fractures profondes dans lesquelles se trouve ce pays. Il y a des familles américaines qui comprennent des démocrates et des républicains qui aujourd'hui sont fracturées, en fait. Des amitiés qui ont été brisées, des amitiés entre démocrates et républicains. Avec des personnes, des relations brisées, des personnes qui ne se parlent plus, tout simplement parce qu'elles ne sont pas d'accord sur l'état du pays, elles ne sont pas d'accord à propos de Donald Trump. Et pour moi, ça a été l'un des plus grands changements de ces 4 dernières années. Alors Donald Trump n'est pas celui qui a créé ces divisions. Finalement, elles existaient déjà avant, mais il a certainement accéléré le processus de polarisation de ce pays. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez une part importante, enfin de plus en plus importante, de démocrates qui voient le parti républicain et les républicains comme une menace existentielle, hein, c'est le terme qui apparaît dans les sondages. Et de la même manière, vous avez beaucoup de républicains qui voient les démocrates comme une menace existentielle. Et donc vous avez deux parties, un pays qui est fracturé, avec deux bords politiques qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas. Et honnêtement, alors, on a un peu du mal à voir comment ça peut être solutionné.
Alors votre podcast, je le rappelle, on le trouve sur le site de La Croix, et pas seulement un titre ambitieux, c'est Sale Amérique. C'est quoi l'objectif ? Quel est votre parti pris, Alexis Buisson ?
Il n'y a pas vraiment de parti pris. Enfin, si devait y en avoir un, c'est quand même continuer finalement à faire ce qu'on fait dans la version papier de La Croix, dans le quotidien. Hein, c'est prendre un peu de recul, prendre un pas de côté par rapport à l'actualité et tenter d'expliquer l'Amérique dans toute sa complexité, ses nuances. On sait que c'est un pays qui se prête aux caricatures. Hein, ouais. Donc là, l'idée, c'était en plus avec un président comme Donald Trump qui est très théâtral, etc. Donc l'idée, c'était vraiment d'expliquer, d'essayer de faire de la pédagogie autour de ce qu'est l'Amérique aujourd'hui.
Alors, avec des cas concrets, ce sont des entretiens. Comment vous choisissez vos invités ? C'est quoi le profil des gens qui parlent ? Ils sont francophones d'abord ?
Ils sont francophones, oui, pour la plupart. Alors, il y a quelques exceptions, dont le prix Nobel d'économie, Joe Stiglitz, qui a accepté de nous parler. Et lui, il nous parlera en anglais. Mais effectivement, ce sont des observateurs divers de la société américaine, des experts, des enseignants, des journalistes, des militants qui habitent ici aux États-Unis, qui observent ce pays depuis très longtemps et qui partagent aujourd'hui leurs impressions sur ce qu'est devenu l'Amérique alors, ces 4 dernières années.
On va donner un exemple concret, ça se passe dans le premier épisode qui est sorti vendredi dernier, vous receviez Benjamin Haddad, c'est le directeur Europe du think tank Atlantic Council à Washington. Le titre du premier épisode, le parti républicain a-t-il perdu raison? Je ne vais pas vous demander si vous avez la réponse, je voudrais qu'on entende Benjamin Haddad qui vous explique à quel point il est difficile de réconcilier ces deux Amériques radicalement opposées, et c'est là ce qui nous intéresse, jusque dans les médias.
Le monde médiatique est beaucoup plus sclérosé, c'est-à-dire qu'au fond, les gens avaient à peu près les mêmes références en termes d'information et d'accès à la culture, regardaient les mêmes émissions de télé, les mêmes séries télé, c'était beaucoup plus facile de parler la même langue. Aujourd'hui, le problème, c'est que si un homme politique donne un discours, il y a peu de gens qui vont regarder le discours en direct ou l'intégralité, et donc il va être vu au travers du filtre de médias qui sont eux-mêmes partisans. Soit MSNBC, qui est un média plutôt progressiste, ou Fox News, qui est un média conservateur. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut regarder les médias, que ce soit les médias en ligne ou les chaînes de télévision qui marchent le mieux, sont les plus clivantes et les plus partisanes.
C'est à croire qu'ils sont clivants et partisans pour faire de l'audience, en plus du fait de véhiculer leurs convictions. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, oui, tout à fait. Alors, sur Fox News, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir quand même des voix un peu d'opposition à Trump, hein, commencer à s'élever au sein de la chaîne, au sein des journalistes, hein, qui notamment qui ne veulent plus être assimilés aux animateurs de Fox News, qui, eux, donnent leurs opinions, hein, comme Sean Hannity ou Tucker Carlson, qui sont des voix très conservatrices. Mais effectivement, de manière générale, le paysage médiatique est devenu de plus en plus partisan. Vous avez maintenant une autre chaîne, un concurrent de Fox News qui s'appelle One America Network, qui est encore plus à droite que Fox News.
Pardonnez-moi de vous interrompre, parce que nous on ne vit pas aux États-Unis, il n'y a pas des grandes chaînes généralistes comme nous, on a la 1, la 2, la 6 qui font des grands journaux regardés par beaucoup de gens et qui sont neutres.
Si, tout à fait. Hein. Il y a les grands networks américains, ABC, NBC et CBS. Oui, tout à fait.
Mais est-ce qu'eux-mêmes sont radicalisés, si j'ose dire ?
Moi, j'ai pas l'impression, mais dans l'opinion de beaucoup d'Américains à droite, ils font partie de cette élite que dénonce Donald Trump. Et si vous voulez, pour ces Américains, effectivement, ils sont mis dans le même panier que CNN ou d'autres médias qui sont vus comme plutôt à gauche.
Ouais, j'ai bien compris, on a encore plein de questions à vous poser, Alexis Buisson, et d'autres volets de l'Amérique médiatiquement et pas seulement à observer. Je rappelle que vous êtes correspondant de l'ACRO aux États-Unis, ça s'appelle C'est ça l'Amérique, le podcast, et vous revenez tout de suite après ça. On est dans Culture Média sur Europe 1, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie d'Alexis Buisson, il est avec nous en duplex, comme on dit, de Portland aux États-Unis. Vous incarnez le nouveau podcast du journal La Croix, ça s'appelle C'est ça l'Amérique. Combien d'épisodes pour ce podcast ?
10 épisodes.
Pas plus. Vous vous arrêtez après l'élection ?
Oui, bah pour l'instant c'est le plan, mais pourquoi pas continuer après, on verra. Mais en tout cas, effectivement, pour l'instant, on va s'arrêter juste après l'élection, ouais, avec un dernier épisode consacré à l'analyse des résultats dès qu'on les connaîtra. Mais on ne sait pas quand exactement, hein, puisque le suspense pourrait se prolonger cette année.
Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a étonné. Vous disiez qu'il y avait une opposition très forte, parfois des familles américaines se fracturaient parce qu'il y a une opposition au sein de la famille entre ceux qui étaient plutôt du camp républicain et ceux qui étaient plutôt du camp démocrate, ce qu'on peut comprendre. Ici en France, on recommande au dîner de Noël de ne jamais parler de politique. Mais si j'ai bien compris, il y a aussi parfois une fracture au sein même des gens qui votent républicains. Il y a les pros, les anti-Trump. Quelles conséquences aurait une défaite de Donald Trump au sein du camp républicain, justement ?
C'est toute la question, et tout dépend en fait de l'ampleur de la défaite, hein, si Donald Trump est battu le 3 novembre. Donc si c'est une défaite qui est avec une très courte marge, on peut imaginer que d'autres bébés Trump, hein, si je puis dire, qui commencent à émerger, hein, à droite, prennent en quelque sorte la relève. Il y a déjà plusieurs noms qui circulent. Par contre la défaite est lourde, on peut imaginer un scénario où des républicains un peu plus modérés, là, qui sont un peu cachés en ce moment, ou qui ont parfois quitté le parti républicain, et ben, on peut imaginer que ces républicains plus modérés reprennent de l'affluence au sein du parti et soient actifs pour essayer de le reconstruire après une éventuelle défaite.
C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que Donald Trump, était, pour employer un mot à la mode, était totalement disruptif. Il ne ressemblait absolument pas, ni même aux candidats politiques, mais même pas aux républicains habituels, et c'est lui qui l'a emporté. Et vous dites que désormais il y a des bébés Trump.
Oui, tout à fait. Hein, faut voir, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la mobilisation de la gauche américaine hein, dans les rues. Il faut aussi voir, et ça fera l'objet d'un des épisodes de ce podcast, C'est ça l'Amérique, il faut aussi voir qu'il y a une mobilisation à droite et qu'il y a une nouvelle génération de jeunes républicains, de jeunes conservateurs qui sont en quelque sorte, qui ont grandi avec Donald Trump et qui commencent à se présenter à des élections ou qui commencent à se mobiliser dans des manifestations conservatrices contre l'avortement par exemple ou pour le droit de posséder une arme à feu. Et donc on commence à voir effectivement de jeunes élus ou de jeunes militants émerger et endosser en quelque sorte les habits de Donald Trump. Et donc effectivement ça sera intéressant de voir comment cette génération perdure hein, après un éventuel départ de Donald Trump soit en novembre soit en 2024.
Alors le deuxième épisode de votre podcast sort aujourd'hui, on est en plein cœur de l'actualité. Il est consacré aux Afro-Américains et au combat contre le racisme. Je rappelle le contexte, le policier Derek Chauvin et trois de ses collègues comparaissent ce vendredi 11 septembre devant la justice pour leur responsabilité dans la mort de George Floyd. Où en est le mouvement Black Lives Matter? Est-ce que les manifestations contre les violences racistes se poursuivent? Vous nous l'avez un petit peu dit, parce que vous dites qu'à Portland, ça continue dans le centre-ville notamment. Mais est-ce que, l'ampleur est la même qu'au départ?
Alors, Portland, c'est un peu une exception parce que effectivement, les manifestations ont gagné en ampleur ici à Portland du fait de provocations diverses hein, de la part de Donald Trump, mais aussi de différents groupes d'extrême droite qui sont venus, qui se sont invités en quelque sorte à Portland, comme ils le font depuis plusieurs années d'ailleurs, mais qui sont venus à l'occasion de ces manifestations pour attiser les braises. Alors, dans d'autres villes, d'autres grandes villes, hein, je devrais dire. Les manifestations aussi se poursuivent. C'est le cas à New York ou à Washington, etc. Même si elles sont moins visibles, elles sont peut-être un peu moins importantes, mais en tout cas, la ferveur des manifestants est encore là. Et effectivement, oui, ces cortèges continuent à manifester malgré parfois des restrictions liées au Covid-19.
Alors, dans l'épisode 2 qui sort aujourd'hui, je le rappelle, vous entretenez avec Claude Grunitzky, pas que je m'écorche son nom, il est franco-togolo-américain, fondateur du magazine transculturel Trace, et avec lui vous évoquez le vote noir, vote pas forcément démocrate.
J'ai parlé avec beaucoup d'amis noirs qui sont effectivement assez méfiants envers Joe Biden, et ils m'ont donné de multiples raisons qui expliquent justement cette méfiance. Ils ont regardé ce qu'il a fait en plus de 30 ans au Sénat, et ils n'ont pas identifié de mesures qui ont permis l'accélération du progrès de la communauté noire aux États-Unis. Alors, je suis obligé de leur expliquer qu'il a souvent été dans le consensus et qu'il est en fait en politique depuis très longtemps et que le pays avait quand même pas mal évolué. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à convaincre certains des amis noirs qui trouvent que Biden a été un peu trop conservateur et a entretenu une sorte d'état de dépendance et de vulnérabilité et tolérer beaucoup d'inégalités de classe et de race.
Ça aussi, c'est très intéressant, parce que contrairement à ce qu'on imagine, ça veut dire que le vote noir n'est pas acquis à Joe Biden. Est-ce que ça veut dire que ces populations-là, pas tous évidemment, iraient voter Trump ou alors s'abstiendraient?
Je pense qu'ils iront quand même voter pour Joe Biden. Hein. Il faut quand même, il faut relativiser parce qu'effectivement, la communauté afro-américaine est plutôt démocrate hein, depuis des décennies. Donc je pense qu'il y aura effectivement une toute petite part de la communauté qui votera pour Donald Trump, hein, mais vraiment une partie infime. En revanche, ce qui est vrai, c'est que tous les Afro-Américains, et je le rappelle, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas un monolithe, hein, c'est une communauté très diverse, etc. ne votera pas forcément de gaieté de cœur pour Joe Biden, notamment les Afro-Américains les plus jeunes qui effectivement le voient d'un mauvais œil, qui se demandent qu'est-ce qu'il a fait exactement pour lutter contre le racisme pendant sa très longue carrière. Et eux ont plutôt soutenu le candidat, son rival, hein, pendant les primaires démocrates, Bernie Sanders, qui était partisan de réformes très ambitieuses dans le domaine de la santé, de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre le racisme. Donc moi ce que j'ai beaucoup entendu hein, de la part de ces jeunes afro-américains, y compris ici à Portland, c'est qu'ils voteront pour lui parce que le plus important aujourd'hui c'est de battre Donald Trump, mais il ne le fera pas pas forcément avec enthousiasme, et surtout une fois qu'il sera élu, hein, s'il est élu le 3 novembre, ils redescendront dans la rue pour s'assurer que Joe Biden tient ses promesses et qu'il améliore le sort, hein, de cette communauté.
Voilà, donc vous répondez bien à la question. Ils n'iront pas spécialement voter pour Biden mais contre Trump, et donc ça répond à la question de la participation, parce qu'on sait que c'est un enjeu crucial aux États-Unis, la participation. Dans un prochain épisode, vous allez vous intéresser justement à Joe Biden et à ce que vous appelez, Alexis Buisson, le paradoxe démocrate. C'est quoi le paradoxe démocrate ?
Le paradoxe, c'est effectivement les primaires du Parti démocrate ont démarré avec un champ extrêmement mélangé, divers de candidats, énormément de femmes candidates, des candidats issus de minorités asiatiques, afro-américains, hispaniques. Et le paradoxe, c'est que effectivement le candidat qui émerge de cette compétition et qui a donc été investi est un homme blanc plutôt âgé.
Ah oui.
Et donc, effectivement, il y a un paradoxe entre la vitalité, la diversité.
On défend les minorités et on se retrouve avec un homme blanc de plus de 50 ans.
Ben finalement, on se retrouve avec un candidat qui ressemble à tous les présidents ou presque tous les présidents qui ont été élus avant lui. Effectivement, il y a un paradoxe de ce côté-là entre un parti démocrate qui est de plus en plus divers, qui est riche, hein, de minorités, et puis effectivement le candidat qui va le représenter lors de cette élection.
Bon, je partage avec vous ce sourire. Merci beaucoup Alexis Buisson. Je rappelle que vous êtes correspondant de La Croix aux USA. Votre podcast, c'est Salle Amérique, en partenariat, on ne l'a pas dit, avec le programme Alliance Columbia et le site d'information des Français d'Amérique qui s'appelle French Morning. Le deuxième épisode est en ligne depuis ce matin. Merci d'avoir été avec nous depuis Portland dans l'Oregon, et je vous dis bonne nuit. Dans un instant,
merci.
Denis Brognard sera avec nous pour la nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1 Les 4 Terres. Koh-Lanta, faut-il le rappeler, secoué par la disparition d'un candidat emporté par le cancer à 30 ans. Mais on a évidemment beaucoup d'autres sujets à évoquer avec Denis Brognard. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Denis Brognard.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes le présentateur de Koh-Lanta, le show d'aventure emblématique de TF1 qui a redémarré fin août pour sa 26e ou 28e saison en 19 ans. Chiffre hallucinant. Quand vous avez démarré la présentation, vous aviez 33 ans et maintenant vous en avez 52.
Ah non, vous vous trompez, j'ai 34 aujourd'hui parce que je ne vieillis pas. Koh-Lanta me fait rajeunir.
Audience très bonne, comparable à celle de l'an passé en plein confinement.
Ouais, on est très content parce qu'effectivement, cet élan nouveau avec des nouveaux téléspectateurs, des gens qui revenaient, qui nous ont permis de gagner encore des parts de marché, ben ça se vérifie sur les deux premiers épisodes et on est très content parce qu'en plus c'est une belle saison.
Je vais le dire, c'est pas de la langue de bois, démarrage incroyable, 1 million de plus que le démarrage de la précédente saison, 5,6 millions contre 4,6. Et c'était avant qu'on apprenne la terrible
nouvelle. Et c'est sans compter le replay qui sur le premier épisode, était d'1 million de téléspectateurs en plus. Donc on est à 6 700 000 en tout.
Et c'était avant, disais-je, qu'on apprenne la terrible nouvelle qui est tombée hier, le décès d'un des candidats, Bertrand Kamel. C'est écrit Kamal, mais on prononce Kamel. Mm-hmm. Il n'y a eu aucun drame sur le tournage. Il s'est éteint d'un cancer, des suites d'un cancer à seulement 30 ans. De l'avis de tous, il avait une énergie et une bonne humeur terrible. Extrait de sa présentation.
J'ai toujours le smile, j'ai toujours la pêche. Après, j'ai l'habitude de mettre l'ambiance partout où je vais. Ça, c'est quelque chose qui me définit vraiment. Je mets le feu partout où je vais, ça me plaît. J'ai un peu foufou aussi.
Cette saison de Koh-Lanta sera évidemment dédiée à Bertrand Kamel. Denis Brognard, vous avez posté hier un texte sur les réseaux sociaux, mais aucune déclaration publique. Merci d'être ici en direct, d'avoir choisi Culture Média. Mmh. Quel souvenir gardez-vous de lui ? J'ai vu que pour vous, c'était plus qu'un simple candidat. Vous étiez devenu ami.
C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil sur le tournage parce que bah vous l'entendez, un sens du partage, la bonhomie, il était solaire, il avait des yeux pétillants et ce type-là, on avait un peu parlé à la fin du tournage, on s'était retrouvés, il a une biculture, un papa marocain, une maman bourguignonne.
D'où le double prénom,
mais ouais, exactement,
Bertrand Kamel.
Exactement, bah c'est, et il est d'une incroyable tolérance, c'est un grand frère, c'est un chef de meute et c'est vrai que quand j'ai appris qu'il était atteint de cette saloperie de cancer. Dès le premier jour, on a commencé une relation incroyable où on se parle tous les jours, où on s'est vu beaucoup, on s'est vu à Paris, on s'est vu à Dijon. Et on a commencé à entretenir ça avec sa maman Annick, avec son papa Samir. Et ça a été un moment d'une grande force parce que ce type-là, malade, souffrant parce qu'il souffrait terriblement, est resté, ben, ce que je vous disais, solaire. Il est resté très positif. Il s'intéressait, il se souciait des autres beaucoup plus que de lui. Et ça, ça m'a toujours beaucoup impressionné.
Sans parler de médecine, parce que ce n'est pas lieu ici, mais je vais poser la question que tout le monde se pose. Comment un type qui a cette énergie-là, ça se voit, peut être emporté par un cancer à 30 ans ?
C'est horrible. C'est l'un des cancers les plus terribles, on peut le dire, puisque lui le disait. Ouais. Il était atteint d'un cancer du pancréas. C'est un cancer qu'on soigne peu. J'en profite pour le dire. Il faut donner pour le cancer. Aujourd'hui, un cancer sur deux est soigné, mais un sur deux seulement. Et à échelle de quelques années, en 2025, avec les nouvelles thérapies, notamment l'immunothérapie, on peut espérer soigner deux cancers sur trois. Mais ça a été foudroyant, ça a été quelques mois. Mais quand je le vois sur l'émission, gaillard, costaud, et vous allez le voir fort dans les épreuves, ce qu'il a vécu, c'est terrible.
Si vous avez regardé Koh-Lanta seulement du coin de l'œil, ou si vous n'avez pas la mémoire des prénoms, c'est le gars qui a les cheveux longs et qui est rasé sur les tempes.
Exactement.
Une espèce de coupe de footballeur improbable.
Non, mais ça, je le chambrais toujours. Parce que les cheveux longs, ok, mais je dis, mais arrête de te raser sur les côtés. Voilà. Et je l'ai chambré là-dessus, quasiment jusqu'au bout. Parce qu'il y a moins d'une semaine, j'étais encore avec lui. Et il me demandait des nouvelles de ma famille. On parlait de choses, on parlait de l'Olympique de Marseille, parce que c'est un fan de l'Olympique de Marseille. Vous voyez, il a toucher tout le monde, parce qu'on m'a dit que les gens de l'Olympique de Marseille voulaient rentrer en contact avec ses parents parce qu'ils avaient été aussi touchés par ce garçon. Parce que dès que vous le rencontriez, il avait quelque chose d'attirant, il vous aimantait.
Vous allez dire quelque chose de spécial ce soir, parce que l'émission qui est diffusée ce soir est enregistrée.
On fait un petit préambule où effectivement j'essaye de le décrire en quelques minutes, j'essaye de parler de lui et de dire surtout qu'on lui dédie cette émission, qu'on ne l'oubliera pas. Évidemment, je ne l'oublierai pas. Puis je confirme effectivement que c'était un candidat de Koh-Lanta. On est devenus très proches et jusqu'au bout. Et c'est aujourd'hui un ami. Et ses parents sont des amis. Enfin, ce sont des gens qui sont rentrés dans ma vie très fort.
Je sais que vous n'avez pas le droit de spoiler l'émission, mais c'est un jeu avec élimination. Est-ce qu'on va le revoir dans d'autres épreuves?
Bien sûr, vous allez le revoir.
Ben non, il aurait pu être éliminé à la fin de celle-ci.
Je vous le dis, il n'est pas éliminé ce soir.
Vous non plus, vous n'êtes pas éliminé, vous restez avec nous, Denis Brogniart. On a plein de questions, on va parler du jeu en soi et de cette saison et aussi de toutes vos activités. Il faut du temps pour ça, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Denis Brogniart, présentateur emblématique de Koh-Lanta. C'est ce soir sur TF1, c'est tous les vendredis, on l'a dit, saison dédiée à Bertrand Kamel. Y a des gens qui ne connaissent pas Koh-Lanta et je vais leur parler. Ouais. Il y a un invariant dans Koh-Lanta, c'est la faim. Vous avez tourné où ?
On a tourné aux îles Fidji, ça fait plusieurs saisons. Alors on change d'îlot, on est dans un endroit dans le sud de cet archipel qui est absolument formidable. Une zone où il n'y a rien, on est loin de tout. On ne peut pas être plus loin, on ne peut pas être plus au milieu du Pacifique.
Il s'appelle comment l'îlot ?
Boulia.
On est à Boulia, il y a plusieurs équipes, il y a quatre équipes. Il y a désormais l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Ça aussi c'est une nouveauté du jeu. Et pour qui ne connaît pas le jeu, pour participer à des épreuves, il faut les réussir pour ne pas être éliminé. Et quand on gagne une épreuve, on a une récompense qui vaut de l'or.
Pour la première fois, vous allez pouvoir aller regarder ces récompenses. Voilà la première.
Pizza. Sérieux,
une pizza.
Oh putain, la pizza.
Du poulet, des champignons, des poivrons, n'en jetez plus, du fromage et une pâte dont vous me direz des nouvelles.
D'abord, vous aurez fait un très bon pizza de l'eau.
Mais ouais. J'ai l'impression que je suis Laurent Mariotte d'un seul coup.
Mais tellement. Mais blague à part, il y a des gens qui sont heureux quand ils tombent sur 10 000 euros. Les gens, là, ils sont contents de tomber sur une pizza.
Hey, Philippe, je vous garantis, si vous ne mangez pas pendant 4 jours, si je vous mets une pizza sous le nez, vous allez vous mettre à genoux et vous allez me prendre pour un dieu.
Et ça va encore plus loin que ça. Donc, vous l'avez dit, vous êtes à Boulia. Dans l'équipe de l'Ouest, il y a une ostréicultrice. Elle s'appelle Jodie. Elle aime beaucoup son métier d'ostréicultrice. Et parfois, elle a des surprises.
L'ostréicultrice Jodie s'attaque à des huîtres sauvages fichées dans les rochers.
Mais là, ça a l'air bien incrusté.
C'est important pour moi de ramener des coquillages parce que du coup, moi, la pêche à pied, je connais. On a bien galéré quand même hein, parce que c'est pas du tout la même pêche qu'en Charente-Maritime.
J'adore. Tu m'étonnes que les îles Fidji, c'est pas l'île de Ré.
Non.
Mais il n'y a pas de beurre salé non plus. Mais elle était déçue que les huîtres ne soient pas les mêmes.
Elles sont beaucoup plus petites.
Ouais.
Les fines de Claire, c'est pas aux Fidji.
Mais elle a quand même réussi. Blague à part, la fin peut faire aller très loin. Il y a une séquence qui m'a vraiment frappé. Je vais pas la diffuser parce que je veux pas spoiler. Ouais. Sébastien, il fait partie de l'équipe du Sud. Il construit un piège en bois. Et il a attrapé un rat.
un petit rat. Ils sont tous hyper contents. Puis il y en a un qui dit « Ah, quand même, je ne veux pas manger du rat. » Un deuxième dit « Ah oui, peut-être, l'autre dit, il y a peut-être la peste. » Finalement, ils décident de ne pas manger le rat à cause des maladies éventuelles. Ils ont vraiment décidé ça, c'est leur décision. Ou est-ce que c'est la prod, on va dire les choses, qui leur ont demandé de prendre aucun risque et de ne pas manger le rat?
Non, non, je pense... alors, je ne connais pas exactement...
Parce qu'ils étaient tellement heureux de trouver ce petit rat.
Non, mais bien sûr, mais je pense que eux, et je les comprends, n'ont pas eu envie de le manger, mais je suis persuadé que s'ils avaient eu envie de les manger, quelqu'un de la production, un caméraman en l'occurrence, leur aurait dit. On est très vigilant avec ça. Et on fait très attention, notamment, vous savez, avec les poissons. C'est-à-dire que de temps en temps, un poisson, vous l'attrapez bien vivant, vous le mangez, tant mieux, c'est formidable, c'est un cadeau venu du ciel. Mais parfois, vous savez, vous avez des poissons qui sont un peu le ventre en l'air, ouais, un peu morts, et dans ces cas-là, on fait vachement gaffe. Voilà, pour leur santé.
La saison précédente de Koh-Lanta, c'était en avril, avait été marquée par la haine dont étaient victimes plusieurs candidats sur les réseaux sociaux. Il y avait Ahmad ou Régis, c'était un père de famille de 40 ans. Il y avait des messages contre eux du genre « J'espère que tes enfants vont mourir » ou « Je vais te retrouver et tuer tes filles ». Inès, 25 ans, menacée de mort et de viol. On rappelle qu'elle était insultée simplement parce qu'elle avait voté contre un autre candidat. Ouais. C'était quand même le principe du jeu. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous aviez évidemment publiquement condamné ces menaces. Et ALP, la société de production de Koh-Lanta, a annoncé qu'elle allait saisir la justice. C'était le 27 avril. Où en êtes-vous du point de vue judiciaire? Est-ce que les choses ont avancé?
Alors là, il faut voir avec Alexia Laroche-Joubert. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de mettre la justice dans la boucle, ouais, ça fait peur. Et malheureusement, les imbéciles qui prononcent, écrivent ces propos abjects, ben, ce sont souvent des couards, des peureux. Et quand on leur met devant le nez une amende conséquente ou voire une peine de prison, ces gens-là sont beaucoup moins malins et sont beaucoup moins péremptoires.
Des faits passibles de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et la levée de l'anonymat. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau pour cette nouvelle saison? Pas cette saison, parce qu'on ne va pas spoiler tout ce qui se passe. Vous nous avez dit que Bertrand Kamel, on allait le voir encore.
Ouais.
Donc c'est déjà pas mal.
Exactement.
Mais la saison ensuite, la prochaine, le casting est terminé, c'est bien ça?
Le casting est terminé, il est sympa, il y aura plein de belles choses.
Mais il y a le Covid. Alors quand allez-vous tourner?
Bientôt.
Et où?
Dans un mois. Et on tournera dans une... Allez, je vous donne un indice, mais je ne vous dirai pas plus. On tournera en France.
Non.
Mais la France, c'est grand.
Bah ça y est, je sais où ça va être. Bah, je vais vous dire, ça va être en Guyane.
Ah ben, je vous laisse responsable de vos propos.
On va voir, je me suis lancé comme ça. Vous avez arrêté Automoto?
Oui.
Vous avez trop de choses?
Vous savez, avec Koh-Lanta, avec Ninja Warrior, que je pars tourner la semaine prochaine, avec District Z, le nouveau programme produit par Arthur, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, plus les événements sportifs, plus mon podcast Vie d'aventure. Ça faisait 8 ans que j'étais à la présentation d'Automoto et je reste toujours très attaché à l'actualité automobile, mais j'avais plus le temps, effectivement.
Vous allez suivre les Grands Prix, parce qu'à la saison de Formule 1, a repris avec personne dans les tribunes, mais quand même les Grands Prix. TF1 en diffuse 4 en clair.
Alors non, cette année, avec tout ce qui se passe, TF1 n'en diffuse pas 4. Ce qui se passera les années prochaines, je ne le sais pas non plus. En tout cas, je suis super heureux et je sais que vous aussi, ouais, que Pierre Gasly ait mis fin à cette longue période de 24 ans de disette en remportant le Grand Prix d'Italie à Monza sur une AlphaTauri. C'est génial.
Ouais, et j'ai lu un truc absolument incroyable, c'est autre chose qu'une pizza. Il avait aucune chance. Il y a un mec qui a parié 30 centimes pour lui. Il a gagné 30 000 euros. On salue cette personne. Salut Pierre Gasly.
Ouais, exactement. Le mec est capable de dire Pierre Gasly va gagner un Grand Prix avant le départ. C'est un visionnaire.
Je vous dis juste ça, les 30 centimes, je les ai. Merci beaucoup Denis Brognard.
Merci Philippe.
Je rappelle Koh-Lanta, dont on entend la musique. C'est ce soir sur TF1, saison dédiée à Bertrand Kamel. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Bertrand Kamel.
Oui, Kamel. Oh, ouais. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Évaroc pour le zapping du lendemain et Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial matinale télé. Pomme, la chanteuse, je ne me trompe pas, pour la réédition de son album magistral, ça s'appelle Les Failles. Et puis dans les indispensables, 3 recettes quand on est débordé. Vous parliez de Laurent Mariotte, il sera là. À tout de suite.